Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Des hommes déshabillés, de drogue qu'on m'avait, d'amour et de tuer.
Bienvenue à Ainsi soit-elle cette semaine pour la dernière émission de la saison à CKIA. L'équipe d'Ainsi soit-elle vous a préparé un condensé de toute notre saison, les meilleurs moments, nos coups de cœur, nos coups de gueule, soit commentaires sur l'actualité de l'année qu'on vient de passer, ou encore des extraits de nos meilleurs moments à l'émission. Donc, ça va être une émission très chargée où est-ce qu'on a fait un choix musical aussi très approprié qui témoigne bien de la diversité musicale qu'on vous a fait entendre à Ainsi soit-elle au cours de cette saison-ci. Donc, on est avec Chantal, Hélène, Evelyne et Evelyne, et vous allez entendre aussi d'autres collaboratrices membres du collectif qui vont être préenregistrés. Donc, c'est ça, on leur dédie la première pièce ainsi que toutes les autres, particulièrement à Émilie qui nous écoute. On commence ça tout de suite en musique avec la pièce, une pièce du ministère des Affaires publiques qui s'appelle « Appelle-moi camarade » et on l'a choisie parce qu'elle met en vedette Kenny Arcana qui fait une petite apparition.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Franz Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade.
Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais je me démerde, merde, sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, c'est un monde bien malade où tout le monde s'en bat la rage, braclé au parleur avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible à encarter, autonome comme les anards à cran, comme les frères de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape, dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble camarades.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade.
Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont canassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel, ils les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur, je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore, patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir, comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de cité où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, vamos camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre,
vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade.
Oui, alors, vous, sur cette piste de... C'est quoi, c'est le ministère public?
Ministère des Affaires publiques.
Ministère des Affaires publiques, une excellente toune qui introduit très bien le coup de gueule que je vais vous présenter. Moi, cette année, j'ai été un peu découragée de voir ce qui s'est passé avec le dossier de Rabaska, la mobilisation autour de Rabaska, puis surtout, dans le fond, comment le gouvernement a agi dans ce dossier-là, les liens qui ont été faits avec des compagnies privées, avec le retrait de ce dossier-là de la Commission de protection du territoire agricole. Il y a plein de choses qui sont passées dans ce dossier-là qui ont vraiment pas d'allure dans une démocratie, et qui, je trouve, illustre très bien les enjeux actuellement dans notre démocratie, justement, les liens avec les entreprises. C'est quoi le rapport de force qu'on a par rapport à ça? Comment une mobilisation peut être écrasée par différents moyens? Alors, j'ai préparé un petit extrait d'une émission qu'on a présentée ici à Squatel le 13 janvier, où on faisait... c'était une petite nouvelle, dans le fond, qui faisait un lien, justement, avec les liens financiers entre Gazprom et l'impact que ça peut avoir sur la politique. Fait que je trouvais ça intéressant de rappeler ça, puis de rappeler aussi qu'on a encore du chemin à faire.
Parmi ces nouvelles, il faut déjà tout de suite noter ce qui se passe avec Rabaska. On en a souvent parlé à l'émission. On a toujours voulu bien couvrir l'opposition qui s'est développée face à ce projet-là qui est dangereux et merdique pour la région de Québec. Et voilà que l'actualité de la dernière semaine donne encore une fois raison, je pense, aux opposants de Rabaska. En fait, probablement que vous avez pu voir dans les médias de masse, en plus de tous les dangers et désavantages que représente le projet de port méthanier pour la région, il semble de plus en plus difficile de faire confiance à Gazprom. Gazprom qui est le géant russe producteur de gaz naturel qui serait acheminé vers Québec. Donc, la semaine dernière, il y a même le Journal des Affaires, qu'on peut qualifier de tout sauf de gauchiste, qui en a fait tout un dossier dans son numéro de jeudi dernier. Ce qui semble se confirmer, en fait, c'est que Gazprom semble utiliser sa production de gaz naturel davantage à des fins de pression politique. Et que le producteur russe ne se gêne absolument pas, donc, pour violer les accords qui passent ou qui signent quand ça peut faire son affaire ou quand ça peut servir les influences politiques qu'il veut faire. Il y a même la France qui l'a appris à ses dépens la semaine dernière, par exemple. Donc, il fait donc à peu près aucun doute que la situation pourrait se répéter dans le cas où un accord surviendrait entre Gazprom et Rabaska, que Rabaska pourrait être lui aussi sujet à ces influences politiques-là, à ces pressions politiques-là. On ne sait pas, mais il y a de gros doutes, en tout cas, qui sont de plus en plus grands sur la question. Et il s'agit évidemment d'un autre motif à ajouter, longue liste des raisons pour lesquelles il faut continuer à s'opposer à Rabaska. Donc, alors, c'est évidemment à suivre. On vous en reparlera dans les prochaines semaines.
Sur cet extrait d'une émission de janvier qui nous rappelait un dossier qui est encore très, très chaud, on passe tout de suite en musique avec une pièce du groupe Random Receipt. La pièce s'appelle Shipwreck.
My mind is like a shipwreck. My mind is like a incorrect. My mind is like a quick step to losing all of what was preset. My mind is like a shipwreck. My mind is like a incorrect, my mind is like a quick step to losing all of what was preset. And if it was up to me, I would learn my ABCs and cross C's and hire people to plant trees. If it was my choice, no sound would be bad noise. Everyone's common ground would be the sound of the voice. If it was my word, conquer would never be heard. As a new baby is born, a new language is learned. But it's up to us to tell each other apart and realize the human race communicates living art.
My mind is like a shipwreck.
My mind is like a incorrect. My mind is like a quick step to losing all of what was preset. My mind is like a shipwreck. My mind is like a incorrect. My mind is like a quick step to losing all of what was preset. And if it was through my eyes, there would be no surprise to eliminate cries from the entire mankind. If it was me to think about why we are linked, I'd admire the skins, the furs, and the minks.
except for what's my decision. I dig a final incision. Stop them clips, I'm giving human night vision. But it's up to us, minds dressed all naked. Human generation, will we make it or break it?
I see skies that are blue, and I see red roses too. I see friends shaking hands, saying, how do you do? And I think,
alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKIA FM 88,3 et avec les filles de Squatel. Et en cette émission spéciale, on fait un retour sur notre année. Alors, cette année, on a parlé beaucoup des slaps, en fait, des poursuites intentées contre différents groupes militants, différentes personnes, différents militants, militantes. Et je vous présente un petit extrait d'une émission de notre début d'année, en fait, qui date du 21 octobre 2008. Où, ben en fait, je vous laisse écouter de l'extrait, là, vous allez, j'ai pas besoin de dire le contenu, et on y reviendra après, on complémentera.
Autre sujet également, qui pourrait faire l'objet de toute une chronique éventuellement pour ça aussi, les poursuites Bayon. Les poursuites Bayon, ou les SLAP, pour reprendre l'acronyme anglophone, rappelons-le, ce sont les poursuites judiciaires entreprises dans le but de museler et ou de ruiner une opposition citoyenne ou autre. Il s'agit d'une pratique qui est de plus en plus répandue. Ici au Québec, c'est une stratégie qui est ouvertement utilisée par certains groupes masculinistes même, et la militante féministe Barbara Legault et la revue À Bâbord viennent d'ailleurs de gagner leur cause après avoir été accusées de diffamation par le masculiniste André Scrooge. Et moment important, donc, c'est demain que se termine la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 99, qui vise à limiter l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation au débat public. Cette commission parlementaire-là se terminera justement par la participation de la multinationale Barrick Gold, qui poursuit présentement pour 6 millions de dollars la petite maison d'édition Éco-Société et les auteurs de l'ouvrage Noir Canada. C'est donc le moment de rappeler qu'il faudra rester vigilante sur ce qui adviendra de ce projet de loi-là, mais surtout de donner un petit coup de main, de se mobiliser en fait pour la campagne menée par Éco-Société, mais aussi par la Ligue des droits et libertés, par l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique et par le Réseau québécois des groupes écologistes. Une campagne, donc, pour forcer à l'amélioration du projet de loi qui a été présenté.
Alors, voilà, c'était l'extrait qui se terminait subitement. Alors, ben Evelyne, en fait, tu voulais revenir un peu sur...
Sur cet extrait-là, parce qu'on vient de l'entendre, là, on a malheureusement dû encore cette année dénoncer à plusieurs reprises les frasques des masculinistes. Et pour ma part, c'est le premier coup de gueule que je voulais marquer en cette fête de saison, un coup de gueule aux masculinistes. Donc, pourquoi aux masculinistes? Parce que, en fait, les masculinistes, tous sous-groupes confondus, représentent aujourd'hui, selon moi, ce qui est probablement une des plus grandes menaces à l'égalité entre les hommes et les femmes auxquelles on doit faire face. Alors, ben, on vient de l'entendre, les masculinistes, on en a parlé, notamment concernant tout ce qui a entouré la requête judiciaire déposée par André Scrooge du groupe Fathers for Justice. On se le rappelle, André Scrooge accusait la militante féministe Barbara Legault et la revue À Bâbord d'avoir proféré des propos haineux à son endroit dans l'article « Des hommes contre le féminisme ». L'article était signé par Barbara Legault et a été publié dans la revue À Bâbord en octobre 2006. Et donc, en guise de solidarité pour le féminisme et contre la bêtise, j'ai décidé de vous lire certains extraits de ce texte-là mis en cause dans cette affaire judiciaire-là contre Barbara Legault, donc la cour qui a finalement, par contre, donné raison à Barbara Legault et à la revue À Bâbord. Donc, le texte s'intitulait « Des hommes contre le féminisme », un texte de Barbara Legault publié dans la revue À Bâbord, et je lis quelques extraits. Prétendant que l'égalité entre les hommes et les femmes est atteinte, les masculinistes affirment que le féminisme discrimine les hommes, notamment en ne reconnaissant pas la différence naturelle et innée entre les sexes, façon détournée de renvoyer les femmes aux cuisines et de garder le contrôle. Ils s'attaquent avec véhémence, fausses statistiques à l'appui, aux subventions accordées aux groupes de femmes, particulièrement les groupes militants contre la violence envers les femmes. Et là, je saute un petit bout. Les masculinistes mettent de l'avant de faux concepts comme la symétrie de la violence, qui voudrait qu'il y ait autant d'hommes violents que de femmes violentes. Yves Pajot, un militant masculiniste, avance que la femme, dans son statut de victime, nourrit la violence. Yvon Dallaire, lui, un autre porte-étendard des droits des hommes brimés, affirme que bardasser, voire même frapper sa partenaire, constitue des moyens par lesquels l'homme exprime sa frustration, tout simplement. Ce dernier va jusqu'à dire, à propos de la violence conjugale, qu'il nous faut une approche sans coupable qui responsabilise les deux protagonistes. Pourtant, selon Statistique Canada, et ça c'est toujours Barbara Legault qui le rappelle, dans 9 cas sur 10, la violence conjugale est le fait d'un homme. Aussi simple que ça. Et je continue, le masculinisme est en fait une mouvance de droite, réactionnaire et conservatrice, qui s'oppose aux changements sociaux portés par les luttes et l'analyse du mouvement féministe. Il promeut une vision essentialiste, traditionnaliste et stéréotypée des rapports sociaux de sexe et de la famille. La femme au foyer, faible, douce, émotive, chargée du soin des personnes, l'homme, lui, pourvoyeur, fort, protecteur et viril. Le masculinisme n'est pas un mouvement, contrairement au mouvement féministe qui, fondé sur l'oppression structurelle des femmes par le patriarcat et organisé en un vaste réseau de groupes à travers le monde, possède une riche et forte histoire, une diversité de théories et de concepts spécifiques, qui lutte pour des changements sociaux progressistes visant la fin des oppressions et des inégalités systématiques en mettant de l'avant des revendications claires. Le masculinisme, lui, est plutôt un discours, souvent démagogique, porté par une poignée d'organisations qui, par certaines actions d'éclat et une analyse préconisant le maintien des privilèges et du pouvoir des hommes, trouve un écho disproportionné dans les médias, de même que sur les sièges des parlements et chez certains professeurs d'université. Le discours masculiniste n'est pas une analyse, mais bien un discours haineux. Et là, Barbara Legault poursuit sur les tactiques particulières au Québec que le masculinisme peut utiliser. Entre autres, les masculinistes utilisent de plus des tactiques douteuses, allant des poursuites judiciaires à l'intimidation et au harcèlement. Entrer par effraction dans les locaux de la maison par en robac en bousculant l'une de ses travailleuses, tentative d'intrusion et de sabotage lors d'événements féministes, publication sur des sites web de photos et d'avis de recherche de féministes et d'hommes pro-féministes, sans compter des menaces de mort adressées à des figures emblématiques du mouvement féministe. Il n'y a aucun mouvement social engendrant et soutenant des changements sociaux fondamentaux qui n'ait pas rencontré une forte opposition des forces conservatrices, défendresses du statu quo dans l'attribution des pouvoirs, des richesses et des privilèges. Le mouvement féministe n'y fait pas exception et cette réalité du backlash masculiniste nous interpelle toutes. Il faut nous employer à repérer et à dénoncer les dangers du discours haineux porté par les masculinistes et nous solidariser envers les féministes qui subissent leur attaque belliqueuse au nom de l'égalité entre toutes. Alors voilà, c'était le texte de Barbara Legault, accusée pour ce texte d'ailleurs d'avoir proféré des propos haineux. Je ne sais pas où vous pouvez voir de la haine dans ça.
Je crois que la vérité choque.
Effectivement, la vérité peut bien faire mal à ceux qui sont habitués de vivre dans un monde de mensonges. Ouais. Et donc voilà, sur ce sujet-là, on ne conseillera jamais assez à ceux et celles qui ne seraient pas convaincus d'aller lire et relire le livre de Francis Dupuy-Déry et Mélissa Blais sur le mouvement masculiniste et l'antiféminisme au Québec.
Donc, si les masculinistes ont notre coup de gueule, le livre, lui, pourrait être un de nos coups de cœur de l'année.
Effectivement.
Et on va continuer cette émission coup de gueule, coup de cœur avec un coup de cœur musical de Chantal qui va être Isabelle et Léra, la pièce « L'espérance ».
Let's
Alors, sur cet excellent choix musical de Chantal, en tout cas que moi je trouve excellent, je voulais vous présenter, dans les membres des Squattels, on a plein de talents, on est vraiment des filles pleines de ressources qui regorgent de différentes compétences, et on a Émilie qui nous écoute. Salut Émilie. Émilie slam, a fait des slams entre autres, donc elle présente à différentes occasions dans des soirées des slams de sa composition. Alors je voulais vous présenter un slam qu'elle a fait en onde le 30 septembre dernier, donc en début d'année, et qui s'appelle la Wicca Slam. Donc, moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs. Je pense que c'est un de ses premiers, d'ailleurs, qu'elle avait fait au 8 mars, là, si je ne me trompe pas, bref. Je ne me rappelle plus trop quand elle l'a fait, mais il est excellent. Alors, je voulais s'entendre Émilie de notre collectif qui slam.
Lèche vitrine, trip, plastique, bitch de brats et de super nana, sacoche de guerre, pétrole à lèvres, balai volant et baume au cœur. Téléconseil, présence aucune. Silicone, bronzage et course aux fringues, modèle top déshumanisé, viol collectif de l'érotisme. Diagnostic, schizophrénésie, maladie nordique, effet direct au sud, déclenché par une chute drastique de libido social. Seringue maudite, un vaccin existe. Mélange toxique et pas trop fiable qui prétend prémunir contre la peur, d'avoir mal. Effet secondaire négligeable, perte de l'équilibre mental planétaire et sévère indigestion du système. Or, comme tout bon paternel, le mystère de la santé ramène à l'ordre et aux antidépresseurs. L'industrie pharmaceutique, dit-il, garde le contrôle sur l'incontrôlable. Leur revue scientifique proclame que toute pandémie sera pendue. Et en réponse, la Wicca Slam crache l'étincelle qui prend feu, brûle la prescription médicale ainsi que la revue scientifique. La posologie est renversée, la mafia pharmaceutique est castrée, les pandémies sont enfin écoutées et de la révolte émane l'auto-guérison.
C'était un des meilleurs moments de l'émission présentée par Ainsi Squattel. On continue cette émission rétrospective en musique avec une pièce de Paul Carniello qui s'appelle Fatigant pour vous montrer à quel point on est diversifié à l'émission.
C'est fatigant! Des fédéralistes, des Pierre Trudeau, des Jean-Baptiste, c'est fatigant.
De gagner sa place en tout temps, c'est fatigant. Des artistes un peu tristes qui se plaignent tout le temps, c'est fatigant.
Comme sont pesanti questi politici, come son pesanti questi Berlusconi, ma com'è pesante sto cazzo di Rai, come mi rompe questo Sanremo, se pazziga.
Amis que tu t'es mis à dos, le Titanic de l'amour qui prend l'eau, le fond du trou, les égaux, les égouts, les moyens du bord, les moyens termes et le Moyen-Orient, alors oh non, et tout le tralala et le grand Manitou et tout, c'est fatigant d'être sans le sou, d'être sans dessus de ces fatigants.
Pousser des enfants équilibrés en solitaire sous le seuil de la pauvreté, d'avoir les ovaires à l'envers sur un horaire stressé, pas être équipé, cash pour procréer. Ça a l'air si bien fatigant de se prénommer Pauline et d'aspirer siéger au top du Parlement. Après tout le chemin qu'on a fait, la majorité des jeunes filles rêvent d'être chanteuses. C'est vachement fatigant.
Contre les communistes, contre les trotskistes, contre les socialistes, c'est fatigant
de courir après son temps et d'en mourir.
C'est fatigant.
Vous
Vous écoutez toujours Ice Squattel sur les ondes de CKIA FM en cette superbe dernière émission de la saison où ce qui est vraiment très le fun, c'est qu'on est tout plein en studio ce soir pour vous présenter nos coups de cœur, nos coups de gueule, différents extraits qui ont marqué cette saison d'Ice Squattel. Mon deuxième coup de gueule, donc, s'en va aussi aux forces conservatrices de ce monde et notamment à celles qui s'opposent aux droits des femmes à l'avortement. On en a beaucoup parlé lors de la dernière saison. On en entend encore parler ces jours-ci. Donc, depuis un an, principalement autour de nombreux projets de loi qui ont été déposés à la Chambre des communes à Ottawa, ce qui est très clair à Ottawa, pardon, à Ottawa.
C'est ton accent de locaux qui ressort, là, on le sent.
Ce qui est très clair, c'est que par divers moyens détournés et stratégies cachées, le caucus des députés qui se qualifie de pro-vie tente de faire recriminaliser l'avortement au Canada. Donc, le caucus pro-vie, on le rappelle, est composé de députés et sénateurs très majoritairement conservateurs, mais aussi libéraux pour quelques-uns. On en a parlé à plusieurs reprises pendant la saison et c'est à eux que va mon deuxième coup de gueule. Encore jeudi dernier, d'ailleurs, journée qui marquait le 40e anniversaire de la décriminalisation de l'avortement thérapeutique au Canada, des pro-vie se sont donné rendez-vous devant le Parlement fédéral afin de dénoncer ce qu'ils considèrent comme un manque d'informations entourant l'avortement. Selon eux, il y avait Marc Ouellet et les députés conservateurs en tête. Il y aurait donc un manque d'informations flagrant entourant le statu quo juridique actuel qui régit le droit à l'avortement. Et comme le rapporte le journal Le Devoir, par contre, ironiquement, alors qu'il dénonce le manque d'informations et une certaine forme de censure qui viendrait des médias à propos du droit à l'avortement. Le député conservateur qui est président du caucus pro-vie, député de Winnipeg Sud, a refusé de dire combien le caucus pro-vie comptait de membres et de quel parti politique il provenait. Donc, il faut questionner d'ailleurs très fortement le qualificatif pro-vie que ces députés et autres anti-choix se donnent. Rappelons donc à ces bien-pensants qu'à la fin des années 60, au moment où la lutte pour le droit des femmes à l'avortement était initiée, les complications des avortements illégaux et tentatives d'auto-avortement constituaient la principale cause d'hospitalisation des Canadiennes. Donc ça, c'est Statistique Canada. Ben, alors, on l'appelait alors le Bureau fédéral de la statistique, mais Statistique Canada qu'il constatait en 1968. Alors, les anti-choix ne manifestent pas pour la vie, malgré ce qu'ils peuvent bien en dire. Ils militent contre les droits des femmes de vivre en santé, en pleine égalité. Ils œuvrent pour continuer à s'accaparer le contrôle sur elles-mêmes que les femmes ont gagné de haute lutte et continuent de lutter pour avoir. Et ça, c'est inacceptable. Donc voilà, c'était mon deuxième coup de gueule.
Merci beaucoup, Evelyne. On continue après la pièce musicale avec d'autres coups de cœur et coups de gueule. Pour le moment, ça va entendre The Eyeliners avec la pièce « Stuck on you ».
Ici la police! Ici la police! Ici la police! Nous vous demandons de vous disperser!
Je dois y aller.
La parole doit être donnée au peuple!
Il n'existe aucune règle.
Vive la révolution.
Est-ce que tu es prêt?
Maintenant.
Thank you.
Alors, les plus perspicaces ont remarqué que ce n'était pas les eyeliners, mais c'était plutôt le peuple de l'herbe avec la pièce « Viva la Révolution ». Alors, écoutez, cette année à Escotel, on a eu une émission un petit peu spéciale parce qu'on a fait une table ronde. C'est la première fois qu'on essayait ça. Et ça a donné un très bon résultat. En fait, c'était assez intéressant comme émission. Puis, on avait fait ça le 14 octobre, qui était la journée des élections. Alors, je vous présente quelques extraits de cette émission-là. Qui en fait, c'était une discussion pendant une heure, fait que je peux pas choisir tous les extraits, toutes les discussions, mais au moins, ça va donner une petite idée de la conversation qu'on a eue à ce moment-là. Alors, vous écoutez, c'est KIA FM et particulièrement l'émission de Escouatelle, une émission spéciale, en fait, en cette journée électorale. On a décidé d'aborder la question des femmes et de l'État, ou de la place des femmes dans l'État. Puis, la première question qu'on peut se poser lorsqu'on réfléchit à ça, c'est notre système électoral, évidemment, étant donné qu'on est en élection. Est-ce que, dans le fond, le système électoral... quelle place, en fait, on veut jouer dans ce système-là? Est-ce qu'on doit aller voter ou pas? Est-ce qu'on doit encourager nos candidates femmes? Quel rôle on joue? Puis la première question que j'ai envie de vous poser, parce que là, je suis avec les deux Evelyne, Evelyne P. et Evelyne Dédé, c'est est-ce que vous êtes allé voter aujourd'hui? Moi, je peux vous parler de mon expérience. Moi, je suis allée voter, malgré notre position qu'on a un peu au collectif comme féministe libertaire, comme anarchiste, on est un petit peu anti-élection. Donc, est-ce une contradiction d'aller voter aux élections actuellement?
Oui.
Oui, hein,
c'est vraiment.
Définitivement.
Maintenant, il faut voir si on l'assume. Même si le vote, c'est vraiment très limité, moi, je pense qu'il y a des moments où il faut se demander, est-ce qu'on doit y aller, par exemple, pour empêcher le pire? Il y a des contextes. Je pense que je veux pas non plus comparer les conservateurs avec Hitler, mais je veux dire qu'il y a des moments dans l'histoire où on se dit, pour empêcher des reculs aussi importants pour la société, est-ce que on devrait leur montrer la porte pour qu'ils soient remplacés par des moins pires? Puis au moins, ben les luttes qu'on fait, peut-être que au lieu de, on va pouvoir continuer à avancer un peu par les luttes sociales qu'on fait à tous les jours. Moi, c'est un petit peu comme ça, en tout cas dans ces termes-là, que je me suis posé la question dans les dernières années. C'est arrivé personnellement que je me déplace, entre autres, au municipal. Bon, puis des fois, par la suite, je me dis, ben là, ça a rien donné. Dans le fond, une personne, ça change rien. On fait juste participer, justement, à ce cercle-là. Mais personnellement, ça m'a beaucoup questionnée. Puis ça m'a amené aujourd'hui à plus m'assumer, parce que il y a des moments où je me disais, ah mais là non, faut que je me cache, je suis gênée d'aller voter. Bon, puis maintenant, ma réflexion, j'en suis rendue à me dire, ben dans le fond, c'est pas un dogme non plus l'abstentionnisme. Puis s'il y a des moments où on dit, on pense en tant qu'individu que dans le fond, ça pourrait contribuer dans certains moments, dans certains comté ou dans certains districts, empêcher le pire, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ça peut pas nécessairement nuire.
Mais même si ça peut pas nuire, moi, ce que j'énonce dans le vote, puis dans les personnes pas qui se replient là-dessus, mais qui le font, tu sais, comme on fait notre part, comme on va porter notre recyclage à chaque semaine, tu sais, c'est le fait que si tout le monde fait ça, si tout le monde y va, au bout du compte, ça donne de la légitimité au système, ça donne de la légitimité au trou de cul qui va être élu au final, tu sais, même si c'est pas le pire qui est élu, je veux dire, ça va être quand même quelqu'un qui va avoir un pouvoir limité, puis qui va être dans le sens qui ira pas nécessairement dans le sens qu'on veut. Ça reste un chèque en blanc qu'on leur donne. Puis le danger, c'est de se sentir lié après ça par notre vote, t'sais. Moi, j'ai rien contre les personnes qui vont aller voter, mais qui, le lendemain de l'élection, vont être quand même dans la rue pour manifester leur position, puis pour faire valoir leurs valeurs, puis faire valoir leurs enjeux.
Et c'était un petit extrait d'une discussion très animée qu'on a eue lors de la journée des élections, comme Hélène l'a présenté. Alors voilà, on va écouter la pièce qu'on vous a présentée tout à l'heure, donc les Eyeliners et la pièce Stuck on You. Et on va continuer nos coups de cœur, coups de gueule tout de suite après.
les ondes de CKIA FM. Vous écoutez Ainsi soit-il, spécial fin de saison. C'est une émission très chargée et on a demandé à toutes les filles qui voulaient de préparer leur coup de cœur, leur coup de gueule de l'année. Et là, on a Geneviève qui s'est joint à nous pour nous partager ses pensées sur cette année.
Oui, ben dans mon cas, c'est très spontané, c'est très émotif. En fait, ça se base sur ma visite au Salon du Livre en fin de semaine passée. J'ai rencontré, je suis allée au kiosque du CRAC Québec, le collectif d'études sur l'autonomie collective, en tout cas.
Recherche
collective de recherche sur l'autonomie collective. Et puis, j'ai vu la monographie d'Ainsi soit-il sur le kiosque et Magali derrière le kiosque, toute fière, toute souriante et contente de me l'offrir. Alors, l'ayant feuilleté, l'ayant consulté, je me suis comme rappelé tout le processus que ça a demandé. Puis vraiment, moi, mon coup de cœur, c'est Magali, Magali Pirotte, parce que franchement, je trouve qu'elle a fait un travail exceptionnel. Je trouve qu'elle a non seulement travaillé très fort, rigoureusement, mais aussi elle a contribuer à ouvrir des espaces de discussion, de réflexion au sein du collectif que je trouve vraiment appréciable puis important, là, notamment, puis vous allez peut-être le voir si vous lisez la monographie, oui, c'est ça. Si vous allez lire la monographie, vous allez voir qu'il y a une discussion, une réflexion sur la résolution de conflits et ça a été, je trouve, très important et très intéressant pour le collectif en mon sens, là. Donc, un grand merci à Magali. Et ben, par la même occasion, on se disait que ça serait bien de vous inviter au lancement de cette monographie. Alors, il se tiendra le 29 août prochain dans le cadre de la journée autogérée organisée par des comités de l'AGT, un comité en particulier. Alors, je crois que ça se tiendra à partir de 7h.
En fait, la journée autogérée comme telle va commencer à 13h aux alentours de l'AGT, donc 251 rue Dorchester. Puis le lancement du livre qui a été écrit justement par le CRAC sur le collectif Ainsi soit-il va avoir lieu vers 19h, donc à l'intérieur, devant le public de la journée autogérée.
Mettez ça à vos agendas le 29 août, c'est un peu loin, mais quand même.
Si vous voulez nous connaître, en savoir plus sur nous, nous rencontrer, pourquoi pas?
Oui, merci pour les précisions. J'avoue que j'y suis allée un petit peu. Alors, mon coup de gueule, j'y ai réfléchi. Franchement, je pense que c'est les multiples pubs sexistes que l'on croise à tout bout de champ, dans la rue, sur les panneaux d'autobus, dans les revues, dans tout ce que vous voulez finalement. Et plus particulièrement, celles d'American Apparel, qui franchement deviennent de plus en plus intolérables. Je me surprenais à lire dans Le Devoir récemment, il y a quelques semaines, un article d'une journaliste qui était outrée, qui était complètement déconcertée parce que le matin, elle se levait, elle traversait le parc avec sa fille, puis pfou, en pleine face, elle avait des fesses d'une jeune fille à moitié accroupie en train de vouloir signifier... Vous pouvez
quelque chose.
Vous
imaginez.
Donc, elle était complètement...
profond.
Elle était complètement désespérée. Puis elle lançait un appel là, à une réflexion sur ça, sur la publicité, puis réflexion sur justement comment qu'on pense notre consommation finalement par rapport par rapport aux images qui sont projetées par les compagnies. T'sais. L'American Apparel au début, on est éthique, on fabrique nos vêtements.
C'est vrai que c'était ça leur motto au début là, mais leur image en fait qu'ils voulaient projeter là, fait que là je sais pas où est-ce que ça en est rendu.
C'est
là,
ça. Moi j'en suis venue à carrément boycotter cette compagnie-là parce que ça n'a juste pas de bon sens, là. Les modèles et le style qui est adopté dans leur photographie, dans leur publicité est complètement sexiste c'est vraiment gênant de voir ces jeunes femmes-là à moitié tout nues qui sont complètement dominées par la caméra, on dirait, là. Donc voilà.
Un coup de gueule pour American Apparel cette année. Merci beaucoup, Geneviève. On va poursuivre encore en musique si on veut avoir le temps de vous faire nos derniers commentaires de la saison. On va écouter Caracol avec la pièce Cold Box.
Vous écoutez toujours Insiscoitel sur les ondes de CKIA à cette fin de dernière émission de la saison, une émission qu'on a voulu un peu spéciale. Et voilà que je vous présente mon coup de cœur, donc à la toute fin de cette émission. Mon coup de cœur va en fait à toutes celles qui, au fil de cette dernière année, ont été, j'ai appelé ça, ont été nos inspirantes. On a parlé de Benoît Groulx, de Voltairine de Clercq, de Léa Robach, d'Emma Goldman, de Maya Angelou aussi, de plein d'autres. On a expliqué aussi comment Micheline Dumont a voulu raconter l'histoire du féministe québécois à sa petite fille Camille, et j'en passe. Mais alors, c'est à toutes celles et à toutes les autres dont on a parlé que j'ai eu envie de donner mon coup de cœur. En fait, j'ai trouvé terriblement inspirant d'écouter et de réécouter Des Lumières dans la grande noirceur, le documentaire qui a été fait avec Léa Robach, de relire aussi L'épopée d'une anarchiste d'Emma Goldman, de lire des petits bouts du livre de Voltairine de Clercq, de lire Maya Angelou aussi. Donc, j'ai trouvé ça terriblement inspirant, et c'est d'ailleurs d'autant plus important de s'inspirer de ces femmes incroyables-là que se construit depuis deux décennies tout un discours nous disant que le féminisme est plus nécessaire, que les femmes ont atteint l'égalité, et blablabla, et blablabla. Mais en fait, ce dont on se rend compte à travers l'œuvre des Robach, Angelou, Goldman et autres, c'est que ça fait des décennies et des décennies qu'on entend ça, qu'on entend que le féminisme n'est pas pertinent. Et ça fait des décennies et des décennies qu'il y a des femmes qui luttent pour les droits dont nous, on profite. Et non seulement qu'il faut préserver, mais il faut continuer sur cette route-là de l'égalité. Donc, tous ces discours conservateurs-là sur les dangers du féminisme ont traversé l'histoire, mais jamais ils se sont appuyés sur une réalité sociologique et statistique réelle. Ces réalités-là, elles continuent décennie après décennie de montrer que les inégalités entre les femmes et les hommes, elles sont là. Et puis, face à cela, ben, on a toute une responsabilité politique, celle d'atteindre cette égalité-là pour que plus jamais la violence faite aux femmes, pour que plus jamais la pauvreté plus grande des femmes, pour que plus jamais le harcèlement sexuel, pour que plus jamais tout ça. Et j'ai envie ici de reprendre d'ailleurs une image de Christine Delphi, une image dont j'avais repris les grandes lignes en tout début de saison, il me semble, ou quelque part dans les derniers mois. Et il me semblait que ça valait la peine en cette dernière émission. Christine Delphi, donc, qui a donné un exemple super frappant concernant cette responsabilité politique-là qu'on a face aux inégalités entre les femmes et les hommes. Un exemple qui parle peut-être plus dans sa France natale, mais qu'on peut comprendre ici aussi, je pense. En fait, Delphi a comparé la négation de l'oppression des femmes à ce qui s'est passé en France face à la catastrophe de Tchernobyl. En 86, on se souvient, quand la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé, il y a tout un nuage de tout ce qu'on peut imaginer de cochonnerie qui sort d'une centrale nucléaire qui explose. Tout un nuage, donc, qui s'est promené sur toute l'Europe. Et puis, ben, pendant presque 2 semaines, les journaux français ont systématiquement repris la thèse du pouvoir français qui disait que le nuage radioactif n'était pas passé au-dessus de la France. Le nuage de radiation était passé de l'Ukraine à l'Angleterre, à l'Italie, partout en Europe, mais il avait systématiquement suivi la frontière française et ne l'avait jamais, jamais, jamais traversé. Il y avait comme une bulle de verre au-dessus de la France. Incroyable, donc. Et Delphi, elle reprend beaucoup cette image-là pour montrer que c'est un peu la même pensée magique qu'on tend à avoir face à l'oppression et aux inégalités que subissent encore les femmes. Et c'est là que ce qu'elle appelle le mythe de l'égalité déjà là joue un grand rôle. Puis face à ce mythe-là, ben, il faut en appeler à notre responsabilité pour le déconstruire, ce mythe-là, et pour continuer à construire un mouvement bien ancré dans la réalité des inégalités contre les sexes qu'il faut éliminer. Et puis voilà, ben, c'est à tout ça qu'on va continuer, nous, à s'attarder. On va le faire en espérant être de plus en plus nombreuses à se laisser inspirer des inspirantes.
C'est ce qui met fin tranquillement à notre émission, la dernière de la saison. On voulait, avant de vous quitter, vous envoyer une belle pièce reggae pour vous souhaiter un bon été. Donc, on va écouter, juste avant de conclure, la pièce Unity de Desmond Dekker and the Aces.
This is the time that we all should live as one brother. All should live as one sisters. So come along, brothers, and come along, sisters. Unity is unity. So come along, brothers and sisters. You're living in today, sisters. So come along, brothers, and come along, sisters. Unity is unity. So come along, brothers and sisters.
La joie, l'allégresse et surtout l'espoir.
Et la chaleur, parce qu'on l'espère encore.
On conclut cette belle saison d'Ainsi soit-elle. Ici, on est en compagnie d'Evelyne, Hélène, Chantal et Geneviève. Mais il ne faut pas oublier non plus l'autre Hélène, Claire, Véro, Émilie, qui ont contribué cette saison-ci. Toutes les autres aussi collaboratrices. Je pense à Geneviève, Olivier d'Avignon, toutes les autres filles qui ont fait d'autres choses dans les autres saisons aussi. On ne disparaît pas à plus jamais. On va être de retour à l'automne.
Et bien encore plus en forme et avec encore tout plein de sujets parce qu'on c'est pas ça qui manque en fait à l'émission des sujets diversifiés fait que on va vous en amener encore plus.
Si vous voulez nous écrire en attendant ASEARESIST.ca. Puis on remercie Sekaya, la station de radio, de nous offrir ce bel espace.
Pour moi, Sekaya,